de Dieu, hein? C'est notre nourriture. Vous avez soupé, pas encore? C'est après, hein? En plus, il fait jour. Mais on a besoin de la nourriture de notre âme spirituelle. Amen. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu. Je suis heureux de vous revoir. Que Dieu soit béni. Je voulais continuer avec vous là, cette pensée. Pour ceux qui suivent là les réunions de prière, quand j'interviens, on s'était arrêté sur le verset 17 de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. On avait vu les effets de la prière. On avait vu sur plusieurs mardis, et on avance petit à petit sur quelques versets. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 17, ça c'est le verset de base. Priez sans cesse, amen. Est-ce que c'est possible? Allez, je vais redire la même chose. Oui, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que c'est écrit. Sinon, si ça n'avait pas été possible, le Seigneur ne l'aurait pas mis. Hein. Mais parce que c'est écrit, hein, Dieu sait qu'on peut prier sans cesse. Alors prier, c'est, on l'avait vu ensemble, je fais juste un petit résumé. Prier, c'est passer un temps dans la prière et ensuite vaquer à nos occupations. Et on a l'exemple même de Jésus. Quand Jésus, par exemple, dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et au verset 1er, il a dit que lorsqu'il eut cessé de prier, ses disciples sont venus vers lui et lui dit « Enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné. » Donc on voit qu'il y a un temps, c'est ce qu'on fait tous. Je ne sais pas si vous êtes du matin, si vous êtes du soir, mais on passe un temps dans la prière et ensuite on va vaquer à nos occupations comme le Seigneur hein, faisait, passer du temps le matin et puis ensuite il allait de lieu en lieu, de bourgade en bourgade, de village en village et il annonçait la parole de Dieu. La prière c'est donc passer un temps et ensuite c'est un état d'esprit et un état d'âme. On garde la présence de Dieu tout au long de la journée. Amen. C'est pas une fois que la réunion est finie, ça y est, le Seigneur il n'est plus, non. Le Seigneur est avec nous, on le dit assez souvent, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Et on avait vu donc les effets de la prière. On s'était arrêté au verset 11, on avait vu deux pensées là, sur deux mardis, au verset 11, quand il est dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement ?» 1 Thessaloniciens 5, 11, on s'était arrêté sur l'exhortation, et c'est une logique, je relisais le texte, je dis « Mais c'est une logique, si je suis un homme de prière, automatiquement, quand j'ai fini de prier, je vais aller exhorter les autres. La prière a comme effet sur chacun d'entre nous de pouvoir encourager et exhorter les autres. Amen. Si je prie et que il n'y a pas de l'encouragement derrière, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si je suis un homme de prière, si je suis une femme de prière, au contact des autres, je vais les encourager, je vais les tirer vers le haut, je vais les fortifier. Je vais les pousser, hein, soyons tous des locomotives. Il y en a qui disent « Ah, moi, je veux être le wagon. » Non, la locomotive, elle tire et elle pousse les autres. Amen. Et ça, c'est l'effet de la prière. Si je prie, je vais encourager. Si je prie, je vais exhorter. Et s'il y a moins d'encouragement, il faut se poser des questions. Donc, on l'avait vu ensemble. La deuxième pensée, toujours dans le même verset, quand l'apôtre Paul dit ceci, « Édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » On avait vu que là aussi, l'effet de la prière sur notre vie nous amène à nous édifier déjà, c'est-à-dire à nous construire. Amen. La communion, c'est en fait, ce que je vous dis, c'est basique, c'est le plus basique possible. Si je suis en communion avec le Seigneur, automatiquement, je vais m'édifier. Non ? Me semble. Il me semble, si je recherche la communion, si je recherche la présence de Dieu, automatiquement je vais m'édifier. Hein? On avait vu que le Saint-Esprit nous édifie. Hein? Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Amen. Donc je me construis et puis quand je vais me construire, je vais pouvoir construire aussi les autres. D'ailleurs, la Bible compare l'Église à un édifice. Hein? Nous sommes des pierres à chacun. Et nous construisons l'édifice, nous construisons l'église. Hein? Voilà, donc on avait vu qu'il était question d'édifice, et là aussi, ça c'est l'effet de la prière. On avait vu le verset 13, le verset 12 et 13, on s'était arrêté d'ailleurs au verset 12 et 13, et où il était question de considération. Nous vous prions aussi, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. On avait vu ces trois points, la considération, c'est-à-dire avoir du respect, Et là aussi, il me dit, mais Seigneur, je veux le redire, mais si je prie, l'effet de la prière sur ma vie va m'amener à avoir du respect pour mon prochain. Non seulement avoir de l'amour pour mon prochain. Amen. On aime toujours notre prochain. Il vaut mieux, hein, parce que c'est le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Hein. Et ça, c'est l'effet de la prière, avoir du respect, de la considération. C'est vrai, quand on regarde le monde, honnêtement, entre nous, hein, le respect, des fois, ça laisse à désirer. Hein. Mais celui qui prie, celui qui a une vie de prière, celui qui prie sans cesse, il va avoir ce respect, il va avoir cette considération. Ensuite, il est question d'avoir, après la considération, on avait vu, ayez pour eux beaucoup d'affection. Cette affection, on peut l'obtenir que au contact du Seigneur, que dans la prière. Hein. L'effet de la prière sur ma vie va me donner de l'affection. Amen. Je vais être affectueux. Non ? Eh oui, c'est ce que dira le Seigneur, même pour son fils, quand je pense à ce passage, quand Jésus descend dans les eaux du baptême, dans les eaux du Jourdain, Jean-Baptiste le baptise, et il y a la Trinité qui se manifeste, vous vous rappelez ? Alors, il y a le Saint-Esprit qui descend, sous la forme corporelle d'une colombe, ensuite il y a la voix du Père, et qu'est-ce qu'elle dit ? Vous en souvenez ? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et je crois que pour chacun d'entre nous, Dieu dit quand on s'engage, eh bien je mets toute mon affection. C'est lui qui met son affection en nous. Amen. Alors j'aime le dire, pas son affection, pas son infection. Hein? Il enlève l'infection et il met l'affection. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Et donc il est question d'avoir beaucoup d'affection. Et puis on s'était arrêté. Soyez en paix entre vous. Je le disais aussi. Et tout ça, ce sont les effets de la prière. Un homme de paix, c'est un homme qui prie. C'est pas compliqué. Un homme de paix, une femme de paix, c'est quelqu'un qui prie. Parce qu'il est en communion. Parce qu'il est en communion avec le prince de la paix. Amen. Si je suis en communion avec le prince de la paix, si je prie le Seigneur, eh bien je reçois sa paix. Alors, vous connaissez tous ces versets qui parlent de la paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, etc., etc. Hein, le prophète Ésaïe le souligne. On appellera Dieu conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Gloire à Dieu. Et on a besoin de cette paix. On avait souligné, je crois, en conclusion, je crois que c'est dans Actes 9, 32. Regardez, peut-être que je peux me tromper, mais où il a dit que l'Église était en paix dans toute la Judée et la Samarie. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Pour qu'il y ait la croissance, il faut qu'il y ait la paix. S'il n'y a pas de paix dans l'Église, s'il n'y a pas de paix entre nous, il ne peut pas y avoir de croissance. La croissance, elle y est quand il y a la paix. Hein, voilà, c'est la parole de Dieu. Hein, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole du Seigneur. Et on va voir maintenant, si vous voulez, juste le verset 14. Je me suis arrêté sur le verset 14, j'ai réfléchi sur le verset 14. Alors, le verset 14 dit ceci, et là, on retrouve aussi les effets de la prière. Je ne sais pas si vous avez votre Bible. Alors, il est dit ceci, 1 Thessaloniciens 5, 14, toujours en gardant le verset de base, hein, prier sans cesse. Il dit ceci, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles et usez de patience envers tous. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a quatre pensées rien que dans ce verset. D'abord, il est question de désordre, d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Ensuite, il est question de consoler, d'être d'accord avec moi. C'est pas compliqué hein, à décortiquer. Consoler ceux qui sont abattus. Troisièmement, supporter les faibles. Et quatrièmement, user de patience envers tous. Et là, on a les effets de la prière. Donc, on va juste le souligner, si vous voulez. Le premier effet de la prière, c'est que, il est dit ceci, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Alors, j'ai réfléchi, je dis, mais Seigneur, Dieu, vous savez que Dieu nous avertit, Dieu nous parle. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu nous montre. Et si je prie, Dieu va m'avertir. Et je vais pouvoir ensuite avertir, je vais pouvoir avoir du discernement. Là, il est question d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Et il peut y avoir du désordre. Mais si je n'ai pas cette communion avec le Seigneur, Dieu ne pourra pas m'avertir concernant s'il y a du désordre chez quelqu'un. Et là, ça s'adresse aux chrétiens, là. Donc, ça veut dire quoi pour nous? Vous allez dire, ouais, mais c'était peut-être pour les Thessaloniciens. Mais la parole de Dieu, elle est pour nous, de la première lettre, du premier livre jusqu'au dernier livre, hein, de la Genèse à l'Apocalypse. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'Église, il peut y avoir du désordre, et Dieu dit, avertis ceux qui vivent dans le désordre. Mais pour avertir ceux qui vivent dans le désordre, il faut d'abord être en communion avec le Seigneur, et puis hein, Dieu va nous donner donc sa pensée et son discernement. Combien de fois on l'a entendu aussi, même dans les prédications avec les nouveaux convertis, les nouvelles personnes qui viennent, on prêche, et puis l'homme, la femme vient me dire, mais vous avez dévoilé toute ma vie, etc., etc. Mais ça c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui interpelle, c'est Dieu qui touche le cœur de la personne. Donc là, il est question d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Alors, j'ai relevé comme ça. Il peut y avoir du désordre physique, il peut y avoir du désordre financier, il peut y avoir du désordre moral, affectif, sentimental, et il peut y avoir aussi du désordre spirituel. Quand on regarde les épîtres, des fois, il y avait du désordre, et l'apôtre Paul n'avait de cesse que de mettre de l'ordre parce qu'il y avait du désordre. Quand on regarde les Corinthiens, c'était catastrophique. Quand on regarde l'épître aux Galates, c'était pareil, il est en train de dévier, etc. Donc, il peut y avoir du désordre spirituel. Je voudrais juste souligner dans le désordre spirituel, il peut y avoir de l'excès ou du laxisme. Et ce qu'il nous faut entre nous, hein, ce qu'il nous faut à chacun d'entre nous, c'est de l'équilibre. Être excessif, c'est pas bon, même dans les choses spirituelles. Pensez à ce que disait Salomon, ne sois pas juste à l'excès. Vous voyez, et même dans les choses spirituelles, on peut être excessif, comme on peut être laxiste, laisser tout faire. Et ce qu'il faut, je crois que si on a cette communion avec le Seigneur entre nous, hein, et je vous prêche, mais je me prêche, on a besoin de cet équilibre et ne pas tomber d'un côté dans un excès ou d'un côté dans le fait de laisser tout faire. On a besoin donc de cet équilibre spirituel. Et la prière nous donne cet équilibre. La prière, elle nous donne cet équilibre. J'avais relevé quelques passages. Jésus l'enseigne concernant le fait de reprendre, d'avertir. C'est un des premiers enseignements du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, au verset 15. Vous rappelez ce passage où le Seigneur dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Donc, avertis-le, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, pas de problème, tu as gagné ton frère. Entre nous, on n'a pas besoin d'aller le claironner. Ça se règle entre le frère et la personne, et il n'y a pas de souci. Après, il dit, s'il ne t'écoute pas, connaissez la suite, tu prends deux témoins. S'il n'écoute pas, tu le dis à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. Hein? Jésus l'enseigne. Jésus l'enseigne. Hein? Mais s'il t'écoute, il n'y a pas de souci. Paul dit aux Galates au chapitre 6, verset 1er, je l'ai mis sur mes notes, « Si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » Mais il y a quand même le fait de redresser, avertir ceux qui s'il y a du désordre. Il peut y avoir des fois du désordre, comme je citais tout à l'heure, physique, financier, moral, affectif, etc., etc. Mais ce qu'il faut, eh bien, c'est redresser, et même avec douceur. Allez, je l'ai pas mis sur mes notes, mais ça me traverse l'esprit entre nous. Moi, je suis plus responsable d'église. Je suis à la retraite. Mais je vous avoue que c'est pas évident. C'est à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas évident de reprendre. Quand il y a du désordre, quoi, c'est pas évident de reprendre parce que les personnes, eh bien, oh là là, il peut y avoir de la susceptibilité, etc., etc. Mais Je reconnais que des fois, ça n'a pas été facile, hein, en tout cas dans le ministère, pour moi. Mais le Seigneur dit, mais reprends avec douceur. Mais il y a quand même la réprimande. Et je repensais à tous ces textes, je ne vais pas citer tous les textes, mais lisez le livre des Proverbes concernant la réprimande. Et c'est vrai qu'au départ, ça fait mal. C'est vrai ou pas? Allez, ça aussi, ce n'était pas prévu. Vous avez un peu de temps? Il fait jour maintenant, c'est bon. Et ce n'est pas prévu ce que je vous dis. Quand je suis rentré dans le ministère, il y a quelques années, et j'avais un maître de stage. Wow, c'était un ancien de l'ancien, et il était de longue en train de me reprendre. Moi, j'arrivais, je me suis converti, j'étais dans les cités, et puis bon, Et alors, quand il se mettait devant, quand j'ai commencé à prêcher, il se mettait devant et il est devant moi en face. Vous voyez, ça, c'était bien pour vous, pour bien pour vous motiver. Et quand tu le voyais sortir le carnet et le stylo, je dis, tu vas avoir ton compte à la fin de la, à la fin du message. Et tu as fait ceci, et tu as dit cela, et tatati, et talalala. Et réprimant, à un moment donné, je dis, j'en ai marre, moi, j'arrête tout, j'en peux plus. Et j'étais marié, j'avais déjà des enfants, j'avais 3 enfants, du quand même. Et moi, j'étais dur, et il fallait un gars plus dur que moi, sinon je l'aurais mangé. Eh oui. Mais je bénis Dieu. Ça, alors, c'est vrai que ça fait mal hein, quand on vous reprend, réprimande. Mais c'est aussi formateur. Et je bénis Dieu pour cet homme, hein, cet homme qui a été mon formateur. Hein, et c'est important, ça. Et le Seigneur l'enseigne, et reprendre. Et lui, il ne mettait pas des gants. Hein, la douceur, hein. C'était pas trop son fort. Hein. 2 Timothée chapitre 2, c'est un homme que j'aime énormément. 2 Timothée chapitre 2 verset 24, regardez ce que dit Paul à Timothée, là aussi dans le domaine de la réprimande, là ça s'adresse même aux serviteurs, regardez, il dit ceci, 2 Timothée 2, 20, chapitre 2 verset 24, or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience, vous vous rendez compte, il doit redresser, avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez ? Et là aussi, hein, il dit, eh bien, il doit redresser. Amen. Paul dit dans ce même épître de Paul, quand il dans 2 Timothée 4, 2, il dit ceci, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure et exhorte. » Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle reprend aussi, elle censure, il y a des choses qu'on peut dire et qu'on ne doit pas dire, et elle exhorte et aussi elle encourage. Mais il y a aussi le fait d'avertir, le fait de reprendre. Paul dit ceci, je l'ai mis sur mes notes, 1 Timothée 5, 20, « Ceux qui pêchent, reprends-les devant. » J'ai dit quand même, j'avais oublié ce verset, dites, 1 Timothée chapitre 5, verset 20. Alors c'est vrai qu'il n'est pas évident, hein. « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. » Comment ? Il me reprend devant tout le monde, reprends-le devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Et c'est vrai que suivant les situations, suivant le désordre, puisqu'on est toujours dans cette première pensée du désordre, eh bien peut-être que des fois il faut agir de la. Et alors j'ai pris juste un exemple, l'exemple de Paul et de Pierre. Vous savez dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 2, quand Paul va reprendre Pierre, vous vous rappelez de ce passage? Pierre était en train de se chauffer, il mangeait avec les païens, et il y avait et quand il a vu arriver, je résume, hein, vous le lirez dans Galates chapitre 2 à partir du verset 11, quand il voit arriver l'apôtre Paul, il se connaissait, il s'est esquivé, hein, de crainte, et puis avec lui, le texte nous dit qu'il a amené avec lui les autres, Barnabas, etc. Hein, et je me disais, en réfléchissant cet après-midi, mais quand même, ça a été difficile, ça a été terrible pour Pierre, non seulement il était répréhensible, d'ailleurs c'est écrit, mais il a entraîné les autres, il a influencé, et Barnabas, c'était pas n'importe qui, j'en avais parlé quand j'avais parlé d'exhortation, Barnabas c'était le fils d'exhortation, c'était celui qui encourageait tout le monde, mais il était au contact là, et il s'est laissé avoir quoi, il s'est laissé influencer, et Paul l'a repris de voler, pourtant c'était des pontes, hein. C'était des pointures, hein. Il aurait pu dire, Pierre, il aurait pu dire, oh, hey, Paul, toi, tu arrives là, hein, tu étais un persécuteur, etc. Mais, comme il était répréhensible, l'apôtre Paul, il a dit, non, il ne faut pas que tu marches comme ça, ou tu marches comme les juifs convertis, mais pas comme les païens, parce que, vous savez, il y a eu quelques arrangements quand on lit dans Actes chapitre 15, mais c'est pas le sujet. Mais c'est pour dire que, eh bien, l'apôtre Paul, il a été quand même, il lui a dit, ce que tu fais, c'est pas bien, hein. Manger, se chauffer, puis quand il a vu, aïe, 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 ça a coincé. Allez, on passe à la deuxième pensée. Nous vous prions aussi, frère. Et ça aussi, ça, c'est vraiment l'inspiration de la parole. Hein. Nous vous en prions aussi, frère, avertissez ce qui vit dans le désordre. Et juste après, il y a une virgule, et il dit « Consolez ceux qui sont abattus ». Deuxième pensée. Et ça va de pair. C'est pas parce que je vais avertir quelqu'un que je vais pas lui donner de la consolation. Vous voyez, je reste pas sur ma position de réprimande, mais je vais consoler. Et ça aussi, c'est l'influence de la prière. Quand je prie, je vais consoler. Je vais peut-être aussi avertir, mais je vais consoler. Amen. Ça, c'est l'œuvre de la prière dans notre vie. Alors, consoler, il y a plus de textes qui nous parlent de consoler. Hein. Consoler, c'est quoi? C'est être animé du consolateur. Et la Bible parle du consolateur. Amen. Et le consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. On va s'arrêter. C'est le Saint-Esprit. Et quand je suis, si j'aime la prière, si j'aime la communion avec le Seigneur, mais automatiquement son Esprit va grandir en moi. La Bible dit qu'il a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Il va y avoir la consolation. Vous connaissez ce passage qu'on cite souvent, j'allais dire malheureusement, qu'on cite souvent dans les enterrements, dans les inhumations. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, dans le chapitre premier, où il dit que Dieu est le Dieu de toute consolation. Il est de toute consolation et qu'il nous console de toutes nos afflictions. Amen. Et je crois qu'on a tous expérimenté la consolation de Dieu dans une épreuve, dans une difficulté. Le Saint-Esprit vient et il nous console. Amen. Hein, ça, c'est surnaturel. Ça, c'est la vertu de Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, Jésus dit, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Il ne se trompe pas, mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit. Il ne se trompe pas. Il nous console, il nous conduit dans toute la vérité. Et des fois, on sait très bien que ce qu'on fait, ce n'est pas tout à fait ça. Non, on le sait des fois. Hein. Et c'est comme ça, mais le Saint-Esprit, lui, vient. Il met le doigt et il vient nous apporter et nous remettre dans la vérité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 26 et verset 27, je voudrais le lire avec vous. Jean 15, 26. Il dit ceci, « Quand sera venu le Consolateur, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Il dit, tiens, je vais le souligner là aussi. « Il rendra témoignage de moi. » Et regardez ce qu'il dit au verset 27. « Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Amen. Le Consolateur, il vient et il fait de nous des témoins. Amen. Allez, pour vous détendre. Pas des témoins qui viennent taper à la porte, qui sont par deux, vous savez. Non, il fait des témoins. Je pensais à ce texte de Jésus, le jour de l'Ascension, quand il dit dans Actes chapitre 1, verset 8, ça, ce sont des versets pentecôtistes. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au bout de la terre. Hein, vous allez recevoir la consolation, vous allez recevoir le Consolateur, et vous serez mes témoins. Amen. Et je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, que ça, c'est l'unique mission que nous avons. L'unique mission que nous avons, c'est de faire de toutes les nations, Matthieu chapitre 28, verset 19, des disciples. Et ben, c'est la mission de l'Église, être des témoins jusqu'au bout de la terre. Amen. Et on fait bien de prier pour les missionnaires. Amen. Jusqu'au bout de la terre. Jésus dit dans l'Évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, à toute créature. » À toute nation. Il n'y a pas une nation que Dieu rejette. Il aime toutes les nations. Amen. Toutes les nations. Il n'y a pas une. Il aime sa créature, donc il aime toutes les nations. Et il dit allez jusqu'au bout de la terre, hein, dans les tribus, etc. On fait bien, j'insiste, de prier pour les missionnaires et que Dieu les encourage et que le Seigneur les. On n'est pas tous appelés. On n'est pas tous appelés à partir en mission. Mais notre mission, elle est autour de nous. Hein. Nos extrémités de la terre, des fois, ils ne sont pas très loin, mais il y a notre voisin. Non? Peut-être le voisin, il a besoin de la grâce de Dieu. Et nous, on reçoit la consolation, on reçoit le témoignage et on apporte la bénédiction autour de nous. Gloire à Dieu. Ah oui, j'avais relevé aussi ce passage dans 1 Corinthiens 14, 3, concernant la consolation, dans les dons spirituels. L'apôtre Paul dit rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels et surtout à celui de la prophétie. Et quand il parle de la prophétie, et il dit que la prophétie, elle exhorte, elle console et elle édifie. Mais il y a la consolation aussi. Et dans le don spirituel de la prophétie, il y a aussi la consolation. Il n'y a pas que l'exhortation, il n'y a pas que l'édification, mais il y a la consolation. La prophétie, elle n'est pas là pour faire peur, elle est là pour exhorter, pour édifier et pour consoler. Amen. Et je ne sais pas si certains puissent être renouvelés dans l'exercice des dons spirituels. Et dans le don spirituel de la prophétie, il y a aussi la consolation. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Timothée. Je vais terminer avec cette pensée. On va continuer après avec la troisième. On ira un peu plus vite et la quatrième. 2 Timothée chapitre 1, verset 15. Regardez ce qu'il est dit concernant un certain homme de Dieu. Tu sais que tous ceux qui... Pardon ? Il y a un petit bruit là. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Et je me disais, Seigneur, qu'on soit comme cet homme, comme Onésiphore. Paul dit, il m'a souvent consolé. Amen. Et qu'au milieu de l'Église, au milieu de l'Église d'Aubagne, il y ait de la consolation. Hein? Amen. Parce que quand je prie, je reçois cette consolation. Je peux aller consoler les autres. Et Paul dit, mais cet homme, lui, il m'a souvent consolé. Il m'a cherché et il m'a fait du bien. Gloire à Dieu. Allez, on passe au troisième point, là. Toujours dans ce même verset, vous voyez, comme quoi que c'est pas trop compliqué, des fois. Et il dit, supporter les faibles. Ensuite, il y a encore une virgule. Voilà. Troisième point, supporter les faibles. Et là, je n'avais pas vu dans ce sens-là. Ça veut dire que dans l'Église, tous ne marchent pas à la même vitesse. Et on doit marcher à l'allure du troupeau. Il y en a qui vont marcher plus vite que d'autres. Il y en a qui vont se convertir. Et ça, on l'a vu. Certainement, vous l'avez vu aussi. Il y en a qui se convertissent et puis ils grandissent. Ils vont dépasser les autres parce que, bon, ben, voilà, il s'est passé quelque chose. Hein, de plus dans leur vie, puis d'autres vont marcher. Et la parole de Dieu nous enseigne à marcher au rythme du troupeau. Hein, on ne peut pas courir s'il y en a qui ne font que marcher. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « supporter les faibles du peuple de Dieu au milieu des brebis ». C'est comme dans un troupeau, il y a ceux qui sont de l'avant et puis il y en a toujours des traînards et il faut marcher hein, au rythme du troupeau. Donc, il peut y avoir aussi des personnes qui sont faibles dans la foi. D'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 14, verset 1er. Il dit ceci, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Donc, on peut trouver au milieu de l'Église aussi des membres, des frères qui sont moins affermis et on va les supporter. Ça veut dire quoi, supporter? Je vais l'enlever parce que... Ça, vous entendez ? Montez le son s'il y a des appareils. il dit de supporter ceux qui sont faibles, hein, parce qu'il peut y en avoir. Et on a besoin de supporter, c'est porter sur soi. Et alors, je ne vous cite pas tous les textes qui parlent de supporter, parce que quand même... Et je peux supporter, là aussi, je regarde toujours l'effet de la prière, je peux supporter les autres, je peux supporter les faibles, que si je cherche la communion avec Dieu. S'il n'y a pas de communion avec le Seigneur, je supporterai personne. Et combien de fois je l'ai entendu dans le ministère, mais pasteur, j'en peux plus, ça fait 40 ans que je suis dans la même église, ça fait 40 ans qu'il est à côté de moi, je le supporte plus. Peut-être pas ici, mais ailleurs. Hein? Et pourtant, si je suis un homme de prière, une femme de prière, je vais supporter les autres. Amen. Je vais les supporter. parce que je vais revêtir le caractère de Christ. Heureusement que le Seigneur il nous supporte, hein, croyez pas? On en a besoin, hein, de se le rappeler. Paul dit ceci aux Colossiens. Supportez-vous les uns les autres. Colossiens chapitre 3 verset 13. Colossiens 3 13. Ça, ce sont des versets clés. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un, ça peut arriver, comme dans un foyer. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Et au verset 14, il dit ceci. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Mais il dit, supportez-vous. Et si l'un a sujet de se plaindre, eh bien, pardonnez-vous, réconciliez-vous. Amen. On ne peut pas rester sans se pardonner, sans se réconcilier. Je le disais, je tourne pas mal dans les assemblées. Je disais, mais Dieu le sait, ça. S'il y a un manque de pardon, s'il y a un manque de réconciliation, mais on n'espérait pas être béni s'il n'y a pas de réconciliation et s'il n'y a pas de pardon. C'est pas possible. Est-ce que Dieu voit tout? Voilà. Il n'y a pas de secret. Hein? Dieu voit tout. Et il dit, mais alors oui, il peut y avoir. La Bible est claire. L'apôtre le dit. Supportez-vous. Et si l'un a un sujet de ce pli, il peut y avoir des plaintes. Ça, c'est pas inévitable. Il peut y avoir des plaintes. Mais il dit, pardonnez-vous, réconciliez-vous. Il y a ce texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Quand il dit, si tu présentes, Matthieu 5, si tu présentes, vous vous rappelez de ce passage? Si tu présentes ton offrande, et que là, tu as un culte, tu présentes, tu vas donner ton offrande, et là, tu te souviens, vous vous rappelez de ce texte? Tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère. Qu'est-ce qu'il dit? Laisse ton offrande, et va d'abord te réconcilier promptement. Amen. Et là, tu auras... Après, tu donnes ton offrande, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais d'abord, va te réconcilier. Parce que la prière nous amène à supporter les faibles, à se supporter. Amen. On est condamné à se supporter. J'avais oublié ce texte aussi dans le chapitre de l'amour, c'est dans 1 Corinthiens 13, hein, quand il est dit « quand je parlerai la langue des hommes », etc. Et il énumère « l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne se vante pas », etc. Et il dit à un moment donné « l'amour supporte tout ». L'amour croit tout, l'amour espère tout. Mais l'amour supporte... Vous voulez qu'on le lise? Allez, on va le lire. Je vais arriver à la fin. Il dit maintenant... voilà. L'amour excuse tout. Je vous fais grâce de tous les autres versets. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et en conclusion, l'amour supporte tout. Amen. Et cet amour, c'est bien sûr, c'est l'amour agapé, c'est l'amour que Dieu nous donne quand on est en communion avec lui. Amen. Et là, eh bien, on va pouvoir aimer et se supporter. Allez, je termine. Dernière pensée de ce verset. Et ensuite, il dit, et je souris, il dit, Paul dit ceci, usez de patience envers tous. Et je riais cet après-midi tout seul, je me dis, des fois, c'est la patience qui nous use. Mais là, il dit, usez de patience envers tous. Pas envers quelques-uns, mais envers tous. Et Seigneur, donne. Ça vous arrive de dire, Seigneur, donne-moi de la patience? C'est terrible, ça, hein, la patience. C'est un fruit de l'esprit. Hein. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience. Seigneur, donne-moi ta patience. Hein? On a besoin de patience. Hein? Je vous fais grâce de tous les textes. Je vois que l'heure passe. Je vous fais grâce de tous les textes, mais qui parlent de patience. Entre autres, dans 1 Corinthiens 13, la première qualité que Paul souligne dans 1 Corinthiens 13, verset 7, c'est la patience. L'amour est patient. Et l'amour est plein de bonté, etc., etc. Et on a besoin que Dieu nous renouvelle dans cette patience envers tous. Amen. L'Église, c'est tout le monde. C'est pas une élite, mais c'est tout le monde. Et le Seigneur nous aime tous. Des fois, on l'oublie. Le Seigneur nous aime tous du même amour. Il n'aime pas plus un que l'autre. Il nous aime tous du même amour. C'est à nous, ensuite, par la communion de la prière, qu'on va développer cette patience. Gloire à Dieu. C'est Paul qui dit ceci, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est là, 2 Thessaloniciens 3:5. Je cite ce passage, c'est dans Jacques. Et la patience, on doit l'avoir jusqu'à la fin. Tout à l'heure, dans les prières, il était question du retour de Jésus. À plusieurs reprises, il y a des frères qui ont prié dans ce sens. Et regardez ce que dit Jacques, chapitre 5, verset 7. « Soyez donc patients, Jacques 5, 7, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » C'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus. Amen. J'applaudis pour le retour de Jésus. Et quand on voit tout ce qui se passe, je me dis, c'est honnêtement, ça c'est pas pour meubler, mais je me dis, mais il reste très peu de pièces au puzzle pour que le Seigneur revienne. Très peu. On n'attend que son retour. Vous savez qu'il se fera en deux étapes, l'enlèvement de l'Église, mais d'abord ce sera l'enlèvement de l'Église. Les morts en Christ vont ressusciter, et nous qui serons restés, je ne sais pas si je serai encore là, moi j'en sais rien, hein, mais nous qui serons restés, dit Paul, bien on partira à la rencontre dans les airs, et on sera consolés. Amen. Il y aura les noces de l'agneau pendant ces 7 ans, et ensuite il reviendra avec l'Église poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Mais honnêtement, quand on regarde, je le disais là dans l'émission, quand on regarde Israël, et quand on regarde la planète, tous les yeux sont rivés sur Israël. Hein? Voilà. C'est pas le lopin de terre, c'est parce que c'est comme ça, c'est que les prophéties s'accomplissent et le retour du Seigneur se rapproche de plus en plus, mes frères et mes sœurs. Et on doit être prêt. Je pense à ce texte, le verset m'échappe, je sais que c'est dans le livre de l'Apocalypse. Et il dit que l'Esprit, je crois que c'est dans les derniers chapitres, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Seigneur ». Amen. On a besoin donc d'être patient jusqu'au retour du Seigneur. Et il dit ceci, « Prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison, vous aussi soyez patients, verset 8, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. » Et il parle de la patience de Job. Quand on regarde par où il est passé, vous connaissez l'histoire de Job, hein. Il était intègre, il était juste, puis il a été frappé. Il a perdu quand même ses 10 enfants. Et le livre de Job, c'est pas une parabole. Hein. Que Dieu nous garde de perdre un enfant, mais lui, il a perdu certainement un ouragan, un cataclysme. Ses 10 enfants sont décédés, 7 garçons et 3 filles. Il est frappé dans son corps, il perd tous ses biens. Sa femme, elle lui tourne le dos. Elle tourne le dos à Dieu. Maudit Dieu et meurt. Tu demeures intègre, etc. Et puis Job dira à l'Éternel. Vous connaissez ces textes. On les cite des fois à l'emporte-pièce, mais Job a dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et en ces mots, Job ne pécha point. Et le Seigneur va le rétablir, il va lui redonner. Gloire à Dieu. Hein, mais souvenez-vous de la patience de Job. Soyez patients jusqu'au retour du Seigneur. Voilà ce que je voulais partager.